Allez.
Bonsoir. Alors, c'est moi qu'on a chargé de vous présenter le lieu et la causerie de ce soir. Je ne vais pas pouvoir rivaliser avec les gens qui parlent au fond parce que je n'ai pas beaucoup de voix.
Alors coupez la langue.
Voilà. Donc, nous sommes dans... La plupart d'entre vous le savent, mais il y a quelques étrangers. Donc, pour les quelques étrangers, je vais expliquer le lieu où nous sommes. Donc, le centre Ascasso-Durruti de Montpellier, qui est, comme vous le voyez, à la fois une bibliothèque, un endroit où on fait des projections. Il y a un cycle tous les premiers, deuxièmes jeudis du mois qui s'appelle les colères du temps. Il y a aussi une chorale qui se réunit ici. Et puis, tout un tas d'activités culturelles en lien avec l'anarchisme. Évidemment, au centre Ascasso-Durruti, vous avez tout de suite compris le lien. Donc, la bibliothèque, c'est l'héritage d'un militant espagnol qui s'appelle Diego Camacho, à Belpaz.
Diego Camacho, à Belpaz.
Voilà, que tu as connu. Voilà, qui est aussi le biographe de Durruti, donc. Et... Alors bientôt, vous allez pouvoir lire en français, en italien, un petit peu toute l'histoire du CAD de Montpellier, parce que j'ai interrogé tout un tas de gens ici qui m'ont raconté tous leurs souvenirs. Et donc, ça va bientôt sortir en français et aussi en italien, grâce à Fiamma, qui est à l'origine. Fiamma a une amie commune, voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre l'adhésion. Puis le président n'est pas là ce soir pour vous faire la pub, mais là, le CAD ne vit que grâce à son fonctionnement et donc à l'aide des personnes qui veulent participer aux activités culturelles qui sont gratuites, mais si vous pouvez prendre l'adhésion ou acheter du vin ou je ne sais pas quoi, enfin, les plus aguerris que moi vous donneront tous les détails. Je crois que c'est 25 euros, n'est-ce pas, monsieur le trésorier?
Oui.
Très, voilà. Donc, ça, c'était pour le centre Ascasso-Durruti, qui en plus est souvent accueillant, même pour des choses qu'il n'organise pas lui-même. Mais l'année dernière, il nous avait bien donné un coup de main pour l'accueillir, le colloque sur mai 68. Et ça nous avait beaucoup dépanné parce que l'université de Montpellier, vous l'avez peut-être su, vous souvenez, était occupée. Et puis j'avais eu l'idée justement d'aller dans un amphi occupé où on m'a dit aussitôt, mais non, sinon on me coupait les fonds, donc je me suis dit, tant qu'à faire quand même le colloque, et grâce au CAD, à qui je voue ma reconnaissance éternelle, tout ce travail ne s'était pas perdu. Voilà. Donc justement, c'est dans le cadre aussi d'une manifestation à l'Université Paul-Valéry que nous recevons Giorgio Sacchetti, ici présent, qui nous vient d'Arezzo, mais qui travaille à l'Université de Rome, et qui est un des historiens italiens les plus importants sur l'histoire de l'anarchisme, on peut dire. Enfin, il se présentera. Enfin, moi, j'ai lu plein de choses qu'il a écrites sur l'histoire de l'anarchisme. Donc, il participe demain à une journée d'études qui s'appelle « Figures féminines dans la presse radicale ». Radicale, parce que j'ai travaillé avec un collègue angliciste. Donc, bon, ça fait un peu angliciste, mais bon, ça fonctionne assez bien. Si vous voulez le programme, je pourrais vous le donner. Et donc, pour que profiter au maximum de la présence de George, le CAD a eu la bonne idée d'accepter de l'accueillir ici. Et donc, il va nous parler de deux femmes italiennes qui ont en commun une expérience de l'exil, une surtout aux États-Unis et l'autre surtout en Grande-Bretagne. Alors, vous savez, dans l'histoire de l'anarchisme, comme dans l'histoire du monde entier, parfois les femmes, c'est pas à elles qu'on pense en premier. Pourtant, elles sont bien là. Et donc, qu'il y ait des hommes aussi qui travaillent à leur désinvisibilisation. J'invente le mot sur le moment, là, ça marche. Et bien, je trouve ça formidable que ce soit des hommes qui, avec leur point de vue d'homme, mais qui sûrement savent se mettre un peu à la place des femmes, vont nous parler de cette histoire. Donc, merci à Giorgio d'avoir accepté cette double tâche de venir aujourd'hui et demain encore à l'Université Paul-Valéry. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ?
À quelle heure la prochaine ? Demain, il parle.
Alors, demain, nous l'avons mis en guest star à 14h30. Alors, si vous êtes intéressé par le programme, ça commence la matinée à Saint-Charles, au site Saint-Charles, vers 9h15, je crois, 9h30. C'est pas très grave si vous ratez le début, parce que c'est moi qui vais parler, et comme je n'ai pas de voix, j'aime autant qu'il y ait le public le plus réduit possible. Bon, et puis l'après-midi, ça commence à 14h30, mais c'est route de Mende, donc à l'autre site de l'université, et ça, on va terminer la soirée à 19h par un concert d'un ensemble vocal féminin, avec un concert qui s'appelle elle. Et ça a été très compliqué pour le concert parce que trouver des femmes musiciennes, qui réussissent à passer à travers l'histoire, donc il y a eu quelques aménagements. Enfin, je vous laisse la chef de chœur vous raconter ça, mais c'était aussi, quand on commence à mettre le nez dans ces choses-là, on a quelques petits accès de colère. Et puis heureusement qu'il y a des gens comme Giorgio pour nous en parler d'une façon positive. Voilà, donc à toi la parole.
Isabelle, bonsoir. Je m'excuse pour la première chose de mon français très approximatif, mais je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de Maria Luisa Berneri et de Virgilia D'Andrea, deux femmes anarchistes italiennes. Mais je suis très heureux d'être ici parce qu'en ce moment, j'ai découvert que ces livres appartiennent à la bibliothèque de Diego Camacho, mon ami. Et je l'ai rencontré beaucoup de fois à Florence et j'ai beaucoup de dédicaces, comment dit-on en français,
dédicaces
dans ces livres. Très heureux.
Il y a peut-être tes lettres, Giorgio, ici, parce que bon, si tu as échangé des lettres avec lui, elles sont peut-être ici.
Je ne me rappelle.
On cherchera. Ah.
Alors, ici, la question des femmes, anarchistes, c'est la même question des femmes dans le mouvement ouvrier. Parce que la historiographie n'a pas considéré les femmes par une question de discrimination, par une question de mentalité, mais aussi pour une difficulté technique, méthodologique d'étudier les sources. Donc, Après le deuxième siècle, il y a beaucoup d'études sur les femmes, études de genre, et donc études sur les femmes, et aussi sur les femmes anarchistes. Vous voyez ici deux exemples de femmes qui ont vécu dans deux périodes très différentes. La première, c'est Virgilia D'Andrea, née en 1888 en Italie, en Abruzzo. Abruzzo c'est au sud d'Italie peut-être, et qui est décédée à jeune, on peut dire, à 45 ans, en Amérique. Et Maria Luisa Berneri, née 30 ans après, en 1918, en Italie, à Arezzo, qui c'est ma ville en Toscane, mais née là-bas pour un cas, parce que sa mère, ou mieux, sa grand-mère, était in Arezzo pour faire l'enseignante aux écoles. Elle est décédée à l'été de 30 ans, donc vous comprenez que c'est un âge très jeune, mais tous les deux ont produit des articles de journaux un travail militant et dans les mouvements anarchistes très importants. Alors, comprendre en bref la biographie, je vous dis que Virgilia D'Andrea, enseignante au primaire en Italie, poétesse et journaliste militante, est culturellement et politiquement formée dans les rangs de l'antimilitarisme et du syndicalisme révolutionnaire. En tant qu'anarchiste et antifasciste, elle vit une partie importante de sa vie en exil, Allemagne, Pays-Bas, France, États-Unis. et Maria Luisa Berneri, fille du célèbre intellectuel et militant anarchiste italien Camillo Berneri, combattant antifasciste en Espagne assassiné par les staliniennes, fut d'abord exilée en France, puis à Londres. Au cours de sa brève vie, elle a exercé une activité intense en tant qu'écrivaine et journaliste. Voilà. Alors, je voudrais vous faire une comparaison entre ces vies militantes. J'ai identifié des points communs et des peculiarités de chacune. Les deux sont des femmes et anarchistes. Mais dans la historiographie, principalement dans l'historiographie du mouvement ouvrier et notamment du mouvement anarchiste, ils sont connus comme Virgilia D'Andrea en tant que femme de Armando Borghi, Maria Luisa Berneri en tant que fille de Camillo Berneri. Voilà la première distorsion. La première distorsion parce que on a mis en évidence la vie de son mari dans les premières cases et de son père dans les deux secondes cases. Alors, et il faut aller au-delà de ces concessions parce que si nous voyons les sources subjectives, si nous voyons les épistolaires, si nous étudions vraiment les articles du journaux, nous voyons que ces deux femmes ont une personnalité très marquée. Et n'est pas vrai qu'ils sont dépendants de la figure masculine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une influence d'Armando Borghi sur Virgilia D'Andrea, mais il y a aussi une influence de Virgilia D'Andrea su Armando Borghi. Armando Borghi, vous le connaissez, était le segretario général dell'Unione Sindicale Italienne, qui était le syndicat de gauche qui était fuoriuscito, comment dit-on?
En exil?
Non, pas en exil, scisso.
Ah! Qui avait émané d'eux, qui était issu d'eux.
De la Confédération générale italienne. Et donc, dans les années de la pré-guerre, était un syndicat très important, comme une présence très importante dans les minières, dans les métallurgiques, et dans beaucoup de secteurs du travail. Donc, Virgilia D'Andrea et travaille en tant que dirigeant du mouvement ouvrier. Elle est tout à fait autonome de son compagne. Elle est à tous les faits un dirigeant. Elle va participe à des manifestations et pas seulement, elle est oratrice dans beaucoup de meetings. La même chose pour Marie-Louise Berneri, qui est connue comme étant que fille de Camillo Berneri, mais là une vie culturelle pas seulement autonome, mais représente un sujet très, très intéressant. Journaliste et écrivaine, elles sont accommunées d'un style, les deux femmes, d'un style d'écriture émotionnel. Un style d'écriture émotionnel, c'est-à-dire, veut dire pas seulement un style d'écriture militante, mais basé sur au point de vue éthique, au point de vue de l'émotion. Et puis nous pouvons voir ces différences d'écriture émotionnelle entre les deux. La condition qui est commune des deux femmes est la condition d'asile. Voilà, et c'est le principal point, parce que dans l'Europe, ou dans les périodes entre les deux guerres, il y avait beaucoup de personnes, millions de personnes persécutées qui était après le fascisme en Italie, était allé en exil. C'est vrai qu'il était une émigration économique auparavant, mais en ce moment, il y a des années avant du régime fasciste. Déjà en 1920, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en exil, qui avaient participé à la guerre des classes en Italie. Et deux ou trois années avant du régime fasciste, étaient obligés à aller en exil. Alors, la caractéristique de ces conditions, c'est la précarité de la vie. Mais aussi, il y a, on dit en italien, provincialisation, c'est-à-dire une ouverture culturelle au nouveau monde, aux différents horizons mentaux. C'est-à-dire que les exilés qui venaient en France, qui venaient à Paris, qui venaient dans l'Europe, ont une précarité de la vie, mais surtout, ils apprennent la possibilité de se rapporter à des autres personnes. C'est une expérience très intéressante. Et cette expérience se conforme à travers l'activité journaliste. L'activité journalistique et l'activité politique. Bon. Autre question, les différences et les peculiarités entre ces deux femmes. Deux générations, je dis, différentes. Virgilia D'Andrea, c'est formée au point de vue politique dans les luttes sociales du début du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années de l'après-guerre, mais de l'avant-guerre. Et donc, dans un moment où il y avait l'espoir d'actuer une révolution sociale. Et la guerre, la révolution d'octobre et tout ce qui est passé dans ces moments a formé l'expérience de Virgilia D'Andrea. Maria Luisa Berneri, qui est née en 1918, a vu l'impact quand elle était une jeune fille, l'impact directement avec le totalitarisme. Donc, c'est deux questions assez différentes. Mais c'est très important de remarquer la formation culturelle de les deux femmes et leurs respectives rencontres avec l'anarchie. La biographie de Virgilia D'Andrea, c'est particulière parce qu'il est orpheline à 6 ans parce que sa mère est décédée et puis il a été présent quand on tué son père dans un homicide passionnel. Donc un traumatisme qui vous pouvez bien comprendre.
Excusez-moi, on n'utilise plus du tout le terme crime passionnel, ça s'appelle un féminicide. Et de dire crime passionnel, ça a été pendant longtemps, en tout cas en France, une circonstance atténuante. Bon. Or, c'est souvent un crime aussi qui a un contexte politique. Et voilà, dans une perspective politique, il faut plutôt essayer de ne pas utiliser cette expression.
C'est un homme qui meurt là. Hein.
La petite fille de Virgilia D'Andrea était présente quand on tué son père parce qu'il était un homicide passionnel. Tu as compris? Cioè, mi sono spiegato? Allora, je le dis en italien. Allora, il suo babbo è stato ucciso
con il durante l'omicidio personale.
Ah. Ho detto lei che non puoi usare il termine passionale perché è un termine, come dire, già connotato e che insomma, perché spesso tende a giustificare l'uccisione di una donna.
C'è sempre un termine giuridico dell'epoca.
Sì, e dunque
e folle virgolette, d'accordo.
Les guillemets, voilà.
Ah, voilà.
Sì.
Ça s'entend pas à l'oral.
Voilà.
Non, c'est pas ma définition, mais c'est la définition juridique. Je m'excuse.
Peut-être faut-il reformuler, je sais pas, pour le président, c'est vrai, on n'entend pas les petits.
Mais là, c'est un homme qui meurt.
Oui, lui, et donc il a été tué par sa nouvelle femme, sa nouvelle épouse.
Voulez savoir qui a ucciso il padre di Virginia, d'Andrea?
Credo che sia il forse peut-être le mari dell'amante peut-être.
Donc c'est le l'amant de
peut-être.
Non, le mari de la maîtresse du père qui l'a tué, qui a tué le père de Virginia. Il avait une maîtresse, il était veuf, il avait une maîtresse et le mari de la maîtresse l'a tué.
D'accord. Ah oui, d'accord, c'est carrément OK.
Je voudrais seulement souligner les traumas de sa petite fille, de 6 ans.
Alors,
on est bien dans un contexte, en effet, de monogamie, de mariage bourgeois avec jalousie, et qu'en effet, c'est encore une fois, c'est très politique tout ça, et que, oui.
D'accord. Donc, passionnel avec des guillemets.
Passionnel, d'accord.
Parce que jusque tard en Italie,
un crime n'est jamais passionnel.
Jusque tard en Italie, ça a été comme ça dans la loi. Hein.
Ah, mais c'est aussi.
Alors, et donc, Suzanne, elle a été obligée à être éduquée dans un orphelinat religieux. Orphelinat religieux jusqu'à la majeure majeure. Alors, c'est très important pour comprendre l'état d'âme de la petite Virginia. Et là, s'est diplômée en tant qu'enseignante et là, les premières études, ce qui s'intéresse à Leopardi, Carducci, Ada Negri et la littérature italienne de l'époque. Mais la première rencontre avec l'anarchie, c'est après le 29 juillet 1900, quand on tue le roi Umberto I, quand l'anarchiste Gaetano Bresci tue Umberto I. Parce que dans ces orphelinats, toutes les petites filles sont réunies pour prier pour les rois. Et elle raconte sa expérience. Mais quand il est majeur, il va la première expérience d'enseignante dans l'école de montagne de la Brousse pendant la guerre. Elle comprit le moment tragique de la guerre. Elle est très sensible pour ça. Et à travers des compagnons de la Brousse, Mario Trozzi, connaît Armando Borghi, qui était au confine,
en résidence surveillée
en Abruzzo, et donc s'est passionné au syndicalisme. Elle déroule une activité syndicaliste très importante dans l'union syndicale. Elle cultive aussi la passion pour la poésie. Elle est définie poétesse de l'anarchie par Enrico Malatesta dans une préfaction à son livre de poésie. Et voilà la formation. Une formation d'une famille prolétaire, une éducation religieuse, et après la rébellion à cette éducation. Les rencontres avec la tragédie de la guerre, et puis avec le syndicalisme, la lutte syndicale. La passion pour la poésie et pour la littérature. Voilà la formation. Une question très différente, c'est pour Marie-Louise Berneri, parce que Marie-Louise Berneri est la fille de Berneri, non seulement la fille de Berneri, mais c'est la nipote, grand-fille.
La petite fille.
La petite fille de sa grand-mère, comment s'appelle, Adalgisa Foki, et il y avait dans sa famille pas seulement une tradition anarchiste, mais une tradition de culture risorgimentale. Et sa grand-mère et son grand-père étaient garibaldiennes, une famille de tradition mazzinienne. Et donc, voilà, il y a un long parcours de la gauche risorgimentale jusqu'à le prodrome du mouvement ouvrier et anarchiste libertaire. Il y a un contact très fort entre l'expérience de la gauche risorgimentale en Italie et la naissance du mouvement ouvrier. Et sa tradition, c'est très fort. C'est une tradition qui comporte une culture de la culture de l'autonomie, la culture du fédéralisme, la culture de l'insurrectionnalisme, la culture de la pédagogie libertaire et beaucoup de choses. Et donc, la formation de Maria-Louisa Berneri, c'est une formation traditionnelle qui descend de la tradition garibaldinienne et risorgimentale de sa famille, et puis de la tradition et puis de la militance anarchiste de son père et de sa mère. Parce que c'est très important de considérer en tant que sujet des études et de notre analyse la famille. La famille anarchiste, c'est très important parce que la famille Berneri, et dans les périodes entre les deux guerres, c'est une famille où on pratique la solidarité, c'est une famille où on qui est une crochevia, comment dit-on ?
Croisement.
Ou comment ?
Croisement.
Croisement des compagnons et des contacts avec la méthode de l'analyse network analysis
en réseau.
Si, un réseau, on peut comprendre les rôles de la famille anarchiste dans l'antifascisme et dans l'exil. Donc on peut voir la différence entre les deux, c'est total. Une autre différence que j'ai individuée très intéressante, bon, mon point de vue, c'est la question de la violence politique. La question de la violence politique est très importante pour être analysée dans la longue période. Parce que pour les anarchistes, le fascisme jusqu'à la guerre d'Espagne, on peut dire, doit être combattu. On doit lutter contre le fascisme et avec ces mots latins, c'est qui a écrit Virgilio D'Andrea. Vim vi repellere, c'est-à-dire lutter contre la violence avec la violence. Et à ce sujet, il y a le soutien. Je voudrais faire voir à vous le journal, un journal où elle soutient les bombardiers de Mussolini. Parce que l'antifascisme italien, à exclusion des communistes, donc l'antifascisme des libéral socialistes et des anarchistes, des républicains, était favorable à tuer Mussolini, parce qu'on pensait que la mort de Mussolini pouvait changer le destin de l'Italie. Mais on doit considérer que Virgilio D'Andrea est décédé en 1931. Maria Luisa Bernieri soutient la même position, on peut dire, mais après le trauma de la guerre d'Espagne, il y a un repensement de la violence après la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que on considère que la violence doit être rejetée. Et donc, Marie-Louise Bernieri était présente dans les groupes de Londres, un groupe de libertaires, des anarchistes et des intellectuels qui étaient contraires à la guerre antifasciste. C'est-à-dire, il y avait un groupe des intellectuels dans les pays anglophones qui étaient contraires à la guerre antifasciste, contraires au bombardement.
Aux attentats peut-être. Tu veux dire attentats?
Attentats contre le bombardement à tappeto che facevano gli alleati nelle città tedesche, come dire Dresda. Ecco.
Ah, d'accord. Donc c'est bien bombardement.
Je m'excuse pour mon français approximatif. Et donc, il y a des intellectuels du pays anglophone et très important, Russell, et puis Orwell, je ne me rappelle le nom, mais des intellectuels qui étaient favorables au pacifisme. Et on peut et dire qu'il y a une continuité entre les années 40 et les années 60, parce que après 20 ans, ces mouvements pacifistes, ils étaient encore présents dans le pays anglophone. Et à l'origine de ces positions, il y a les groupes anarchistes libertaires de Londres, où il était militante, Marie-Louise Bernieri. Donc, on peut dire, un piccolo seme sotto la neve. Parce que les mouvements des années 60, du pays anglophone pacifiste, ont une petite racine dans les groupes des intellectuels et des anarchistes qui étaient présents à Londres et qui étaient anti-bellicistes. Voilà. Ecco. La première biographie su Virgilio D'Andrea de 2002. Et les journaux plus importants, qui était directeur, rédacteur en chef, comment dit-on, insomma.
Un meneur.
Pour un journal.
Un rédacteur en chef. Qui s'appelait Veglia, en français, Veillé.
Veille.
Veille. Et j'ai. Alors là, c'est une revue qui est très importante au point de vue culturel, artistique, parce qu'il y a beaucoup des artistes et des avant-gardes qui collaborent à ces revues. au point de vue politique, parce que c'est une revue qui est un point de punto di riferimento.
Un point de référence
pour l'antifascisme. Et surtout, après, parce que c'est publié pendant les années 8, il y a 8 issues, comment dit-on, 8 numéros. Et donc, dans les périodes 1926-1927, et donc, il y a une forte campagne pour Sacco et Vanzetti. La campagne pour Sacco et Vanzetti est très une campagne qui concernait tous les mouvements ouvriers, tous les mouvements socialistes, tous les mouvements anarchistes et tous les mouvements antifascistes. Mais il y avait aussi une difficulté parce que même le régime fasciste en Italie pesait une certaine campagne pro-Sacco e Vanzetti parce qu'il soutenait une demi-vérité, c'est-à-dire que Sacco e Vanzetti était persécuté en tant qu'Italien. Un peu c'est vrai, mais il était persécuté en tant que militant ouvrier, en tant que militant anarchiste. Alors, au sujet de sa couverture, qui est très, très belle, comme on dit, molto bella, allora, il y a une femme avec un profil sévère, con les yeux perdus, les seins nus, et entre les cheveux d'un homme qui est mort, et donc représente la tragédie de l'humanité. Alors, j'ai encore la collection complète di sé, vorrei sfogliarla. Ora apro l'altro, il giornale, e faccio vedere delle pagine di Veglia.
L'altro, Manuel?
Sì, è sempre l'altro, cioè, ma c'ho, mi sembra era... aspetta, ora vediamo.
Non me l'hai mandato?
Sì, l'ho visto, ce l'hai, però se no... aspetta, Allora. Si fa.
Cosa devi fare?
Devo passare all'altro, questo qui. C'è questo qui, ecco il PDF.
Ma è lo stesso?
No, questo qui dovrebbe essere...
No, è lo stesso perché l'ho trasformato io.
No, allora no, allora... No, allora, perché... allora ce l'ho io, tanto non importa, guarda. Allora te non l'hai visto perché...
Mi hai mandato un...
Erano due. Ah. Comunque non importa perché io ce l'ho qui. Ce l'ho qui, ora... Scusi, eh.
Allora. Attends, parce que si vous l'envoyez, je l'ai sur mon téléphone.
Allora. Vi faccio sfogliare la rivista, però ora questo dove si deve trovare il buco. Dove è il buco? Ma è arrivato?
Aspetta. Allora, senti quel dato.
Eccolo. Aspetta, allora. Ora, eccolo, guarda. Dovrebbe essere questo. No, fammi una cista. Questo cos'è? PPT?
È l'ultimo.
La Veglia, no? Veglia anarchica. Bravo, questa, va. Brava. Allora, qui. Questo che è? Via. Questo. Eccolo. Allora. Questo è il... Sfogliamo. Allora. Voilà le journal dont di Gio D'Andrea était directeur. C'est la couverture. Allora, aspetta qua. Eccolo qua. Il y a le signature originale. Très élégant, hein? Di Gio D'Andrea. Ora nous voyons les collaborations, très important. Alexander Berkman, Leda Raffanelli, C'est un anarchiste converti au islamisme. Il est con au l'islam. Ma infatti il rischio è questo, di dire delle cazzate, proprio così, però... Allora, elle est connue notamment pour en tant que dans une vision masculine de la historiographie, elle est connue en tant que femme de Mussolini quand Mussolini était directeur socialiste de l'Avanti, en 1913-14. Les xylographies sont très, très intéressantes et très élégantes. Ecco. Il y a la collaboration de Leda Raffanelli, un journal qui s'occupe de politique, mais aussi de littérature. Tre giorni alla vita. Ora qui c'è il... Arrivo l'esperienza dall'orfelinà e poi vediamo questo. Ecco le firme, le signature Auro d'Arcola, perché il giornale aveva come obiettivo la riunione di tutti i courants dell'anarchisme, e quindi il y a beaucoup di esponenti del movimento anarchiste di différents courants. Armando Borghi, e quindi. Sì, poi ci sono, il y a beaucoup di poesie, ma è très difficile di traduire. Je ne peux pas traduire la poésie en français parce que c'est. Alors, questa. La revue s'occupe du rapport entre l'art et l'anarchie. Alors, je me rappelle une chose. Voilà. C'est une revue qui. Pendant 20 ans, des années 1999 jusqu'à aujourd'hui, s'occupe du rapport entre anarchie, mouvement artistique d'avant-garde, et elle a dédié la couverture de la revue à la revue Veglia.
Ça c'est récent, c'est de quelle année ça?
Si.
Qualche anno?
Questo è del 2002. Okay. En 2002, elle a dédié avec une carte, avec la riproposizione di ses dessins, et puis avec la. Une narration de la revue au point de vue artistique. En France, Virgilia a fait collaborer à la revue beaucoup d'artistes anarchistes qui étaient présents dans la revue. Particulièrement donc, en langage moderne, elle est très élégante, synthétique, et il y a beaucoup de noms de plumes, comme on dit, pseudonymes. Noms de plumes, très difficile à individuer, mais le langage est contemporain au ferment européen des années 20. Il y a beaucoup d'exilographies qui sont parfaitement adhérentes au langage de période et futuristes. Il y a beaucoup de futuristes qui collaborent à ce journal. Parce que vous savez que le futurisme, ce n'était pas un phénomène des droits, mais c'était un phénomène de la gauche. Et il y avait beaucoup de anarcho-futuristes. Anarcho-futuriste, c'est un phénomène dans les visionnaires du futurisme qui s'est publié en Italie. Il y a un secteur très, très intéressant, très important, des biographies et des. Ce qui est des journaux dédiés à la journée du mouvement ouvrier, libertaire, ou mais communiste, et républicain, socialiste, etc. Et donc il y a un collègement entre ces artistes.
Je ne sais pas, enfin moi je n'ai pas fait d'histoire de l'art, mais juste un jour, je me souviens, alors c'est peut-être une fausse info, mais qu'on m'avait dit. De façon très brève, hein, pas du tout argumentée, et je connais que le manifeste de Marinetti, que c'était associé, mais je sais qu'on avait beaucoup de choses, justement à l'avant-garde, mais plutôt pré-fasciste, quoi. Donc si. Est-ce qu'il y avait divers courants, en fait, de, c'est toujours pareil, il y a divers courants du futurisme, ou est-ce
si.
Que c'est pas...
Le futurisme, ce n'est pas seulement Marinetti, voilà. Mais il y a beaucoup d'autres futurismes, il y a un courant de, je pense, Pietro Lucini, c'est moins connu, mais il est antimilitariste. Ouais. C'est un futurisme antimilitariste, ouais. Pacifiste et anarchiste.
Donc lui, il n'a pas signé le manifeste.
Enfin, si. Et parce que, après
il y a
quand
même la guerre.
Non, alors, il y a un petit courant qui était antimilitariste et contre la guerre.
Ah oui.
D'utiliser un langage typiquement futuriste, et qui s'est considéré futuriste.
Mais pour un autre futur qui est écrit dans le manifeste du futur.
C'est une question de communication. Une question de communication, exact.
D'accord. Donc il y a plusieurs.
Si.
Mais il ne reste un peu que ça, parce que c'est celui qui a été le plus visibilisé à travers ce truc de 1909, publié en France dans le journal
Mais
Figaro.
Tu as raison, la parte plus importante, c'est militariste, c'est marinettienne.
Non, mais c'est intéressant de savoir qu'il y avait du coup une autre branche.
Si. D'accord.
Je ne connais pas.
Et il y avait una rubrica dedicata all'arte, très intéressante, avec, ecco, questo, ora non l'abbiamo visto, ma questo è la rappresentazione d'Aminer, che è l'auteur, c'est Vinicio Paladini, un auteur très important du futurisme, qui pubblica ça. Ecco, per dire, le réseaux questo l'influenza dell'arte, questo è quello che è rappresentato, sì, è Modigliani, chiaramente riconoscibile. Questa poi la signatura è Basque, è un nom de plume, Vasco Vasari, peut-être Giuseppe Monanni, qui était un éditeur qui était encore en Italie, qui avait la Casa Editrice Sociale, une éditrice très importante, qui était proche de l'anarchie, proche du socialisme, et Nietzschean. Ecco, questo è. Voilà. C'est très intéressant de voir les parties secondaires de sa revue, sont des sources extraordinaires, parce que on peut. Généralement, la historiographie ne considère pas les parties secondaires des journaux, mais dans les parties secondaires des journaux, il y a des informations, on peut comprendre les réseaux, les network analysis, faire de la network analysis et comprendre les contacts des journaux. Et puis, si nous voyons la sottoscrizione, il y a toutes les personnes qui... Aussi la communication au directeur, de faire communication. Et il y a beaucoup de possibilités d'études. Ecco. C'est une communauté qui est à l'étranger, en exil, et qui a une unique pensée, l'Italie. Et donc, aujourd'hui, nous avons parlé de l'Égypte, aussi là-bas, les Italiens exilés avaient pensé seulement à l'Italie. C'est une question objective. Hein? Ecco, aspetta, ora questo. Ancora volevo sfogliare un altro poco il giornale?
Sì,
se,
sì.
Non è, se non vi annoiate, se no. Allora, questo qui. E volevo vedere, scendere. Poi.
Questo. Est-ce que c'est
toujours la même couverture? Toujours, ma quando il y a l'attentat o la de Lucetti, il y a Lucetti.
Ah, d'accord.
Se no questo è sempre, c'è sempre la même chose. Ma vediamo, doppio voto del fascismo. Madame, se. L'eleganza, ecco. Il senso storico. Il y a Bolin, che si è insegnato tutto, questo è interessante. Avec sa position sur le bolchevisme, collaboration importante. Voilà la voce, toute la vostre, tout votre voix pour Jacques Vanzetti. Questo, Michele Max Netlau. Ecco, voilà, c'est très intéressant. Voilà, c'est un article de Armando Borghi, qui était un protagoniste de la Semaine Rouge en Italie. La Semaine Rouge en Italie, c'est un épisode insurrectionnel de 1914, où il avait, en tant que leader, Benito Mussolini, socialiste, Enrico Malatesta, anarchiste, Pietro Nenni, républicain. C'est la dernière hypothèse d'insurrection de la gauche unitaire, falimentaire. Mais en 1926, Borghi écrit sa mémoire sur ses expériences. On peut lire « Semaine rouge, réminiscences historiques ». C'est difficile à penser qu'après seulement 2 ans, on parle d'histoire. C'est vrai, comme dire, réminiscences historiques en parlant de 2004. Mais, à ces périodes, il y avait la guerre, la révolution russe, le fascisme en Italie, et donc. Il était passé un siècle. Armando Borghi. Emma Goldman. Ecco, voilà, avec la signature d'Emma Goldman. Et il y a des questions de sociales. La revue s'occupe aussi des questions sociales, des conditions de la femme, des problèmes de la prostitution. Il y a la question du bolchevisme est analysée. La Russie n'est plus un mythe. propagande dei libri. Allora. Ora. Aspetta, mettiamolo qua. Ora vi faccio vedere, casomai ora vi, vi faccio vedere l'ultimo numero, le dernière numéro, che è dedicato a Sacco e Vanzetti. Allora. Aspetta, però c'era quello prima di Lucetti, se riesco a vederlo, No, questo no, quindi e tre, e tre non è, sì, vediamo se è 4.
Lucetti, se il maggio,
è 4 e 5, non lo so. Allora, eccolo, voilà, parla mem fam, me Gino Lucetti. Gino Lucetti, Le Bombardier de Mussolini, Gloire anarchiste. Vim vi repellere, in sympathie pour la... On pense que on doit tuer les douches. Voilà la, cette imposition qui était condivisée par les anarchistes et par la, la gauche non, non communiste. C'est une question fondamentale. Dans, au point de vue historiographique, il y a des... On peut dire que le, ce ne sont pas des actes seulement individuels, mais il y a un complot pour... créer l'insurrection en Italie, l'insurrection en Italie, et qui le complot fallit. Ecco, questo è Raffaele Schiavina, qui était un exponent de la Donata des Refrattari, un italo-américain très connu. Le rapport entre progrès et anarchisme, c'est une question qui est. Qui concerne le rapport entre progrès et toute l'idéologie de la gauche, parce que la gauche du XXe siècle est, se rapporte au, à l'idéologie du progrès. Donc, il y a un autre article de Camillo Berneri, qui était un collaborateur de Veglia. Camillo Berneri, qui collaborait. Qui avait collaboré dans les années 20 à des revues protestantes, s'intéressait du problème religieux. Il avait affronté les problèmes de protestantisme et ici de la de francescanesimo, cioè de Saint François. Et du Saint francescanisme, comment dit-on? Francescanisme. Questo si rappresenta la, la souffrance du prison. E questo è très significativo. C'è una revue très élégante au point de vue des schilographies, des dessins. Un travail. Allora, il y a aussi des articles qui. Concerne la questione economica di Christian Cornelissen. Ah, vabbè. Ora dopo vi faccio vedere Sacco e Vanzetti. Devo far vedere perché c'è un disegno molto bello. Questo, no, il disegno quello della Statua della Libertà. Eccolo, 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 eccolo. Allora, questa è molto bella, ragazzi. Molto, ha un'intuizione, insomma. Ops, è successo.
Ah, hai visto le sedie?
Questo è un quintale, sicché vedrai. Allora, questo, eccolo qua. La Statua della Libertà. Après la mort de Sacco e Balzetti. C'est un, le numéro, le dernier numéro è dedicato totalmente a Sacco e Balzetti. Avec le photo de manifestation. Il y a aussi une lettre. Une lettre de Rosina. Rosina.
Raphaël Escavina, quoi. Oui. Ah, je crois Escavina. Que le dessin, alors, il vient de la Donata.
C'est une lettre de. Une lettre, forse.
Gigi Damiani.
Gigi Damiani, anche questo molto conosciuto. Nicola Sacco. Ecco.
Schiavina, anche
Schiavina. Ecco. Qui c'è scritto, non c'è, ecco.
Non si legge.
Vanzetti. Insomma, c'è una. Una lettera di Luisa Vanzetti. Ecco qui. La figlia di Vanzetti che scrive.
Sorella, no?
Sì.
Calma.
Allora, prima, avant, je parlais d'écriture émotionnelle. Allora, Maria Luisa Berneri, non parlerei di me, elle répond à l'accusé de dans son journal War Commentary. Elle est accusée par Orwell d'être objectivement pro-nazi parce qu'elle est contre contre la guerre antifasciste. Alors elle a écrit en 1942. Et le titre originel, c'est « Democracy is preferable ». D'accord, la démocratie est préférable au fascisme. La liberté relative est préférable à l'esclavage total. La grippe est meilleure que la pneumonie. Mieux vaut avoir un œil qu'en avoir aucun. Mieux vaut un accident mortel immédiat que la lente agonie de la mort de soif. Entre deux mots, le mineur est toujours préférable au pire. Mais pourquoi limiter le choix à deux mots? Oui, il y a encore de poésie de Virgilio D'Andrea, mais sono in italiano, dunque è difficile di comprendere. Ma io per ora mi fermerei qui per dare altri spunti anche a loro. Che dici? Se no,
sì.
Posso.
Devo tradurre?
Ah, dimenticavo, sì. Se vous voulez, je m'arrête ici pour le moment. Si. Vous voulez interloquer
poser des questions.
Pose des questions.
Je vais commencer. Je crois que la raison pour laquelle en Italie les anarchistes ont été très partisans de l'action violente contre Mussolini et autres, ça a été à cause de l'exemple que Brecht y a donné. Parce qu'il faut savoir que, bon, la grande presse, évidemment, dit, voilà, les anarchistes tuent les rois, etc. Mais pourquoi est-ce que Brecht a-t-il tué le roi Humbert ? C'est parce qu'il y avait eu des grands mouvements de famille et des gens qui avaient protesté. Il y avait un général qui avait tiré au canon sur la foule. Et le roi a voulu féliciter le général de sa belle, cette belle action. Et c'est pour ça que Brecht a bougé et venu des États-Unis et l'a tué. Alors c'était quand même un exemple assez extraordinaire de punition de quelqu'un qui avait fait un crime qui autrement n'aurait jamais été puni. Et je pense que c'est un des éléments qui a joué beaucoup et qui continue de jouer d'ailleurs encore beaucoup parmi les gens qui sont partisans de la violence alors que les conditions ne sont pas toujours forcément les mêmes. J'étais étonné de voir qu'il y avait le nom de Jacques Reclus, qui était le neveu d'Élisée Reclus, dans la revue, là, parce qu'il dit, c'était marqué, pour tes renseignements, vous pouvez écrire à Jacques Reclus à Paris.
Ah, oui, c'est parce que sûrement, les journaux publiés en France, il fallait que le responsable légal soit français.
Mais c'était publié en France.
Ça, c'est Paris,
à Paris,
ça.
Ah, je l'ai dit. Ah, excusez-moi. Les journaux est publié à Paris. Sinon, on ne comprend pas. Non, en Italie, on ne peut publier rien.
À cette époque-là, c'est fini.
Hein.
Ouais.
Après les leggi fascistissime, 1925-1926, en Italie, on ne peut faire rien d'opposition. Mais, formellement, mais de. Pratiquement, après les 1921, l'opposition du mouvement ouvrier était, comment dire,
disparue.
C'est la question. Parce qu'il y a une émigration antifasciste avant de la prise de pouvoir de Mussolini. En 1922, et puis avec la consolidation du régime en 1925-26. Et donc, c'est à Paris. Une communauté italienne qui était présente à Paris, qui s'est rapportée avec les autres Italiens pour une idée qu'ils étaient retournés en Italie. Et qui désirait la fin du fascisme immédiat.
Oui, bah, merci en tout cas, parce que moi je découvre ces personnes, donc en effet c'est précieux d'avoir des gens qui travaillent pour soulever comme ça, tirer de l'obscurité de l'historiographie des anarchistes. Et donc la question c'est que. Bah oui, bon, alors le style d'écriture émotionnelle, dans l'extrait que vous avez lu, j'ai pas. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, du coup, et je sais pas si on dirait ça de l'écriture de Victor Hugo ou de. Enfin, il me semble qu'une personnalité incarnée, une intelligence incarnée, justement, elle a dépassé cette opposition raison-émotion. Elle est dans les deux, justement. Elle est vivante, c'est une parole vivante, c'est une parole incarnée. Et oui, et l'émotion. Enfin, dans ce qu'elle dit, il y a de la dialectique. Elle oppose les deux, et tac, les machins, etc. Et elle dit, arrêtons de penser la même année, il y a quelque chose d'autre. Enfin, alors du coup, comme exemple d'écriture émotionnelle, moi je trouve que c'est quand même super rationnel, en fait. Mais rationnel incarné. Justement, pas le rationnel froid, le savoir théorique, totalement... Il est là. Donc du coup, je pense que l'adjectif d'émotionnel... Il est un petit peu producteur et je me dis, attention, est-ce qu'on aurait utilisé ce mot pour un militant anarchiste homme ? Attention à la projection de stéréotypes de genre. Ouais. Non, mais vraiment, je pose la question. Et donc, du coup, je voulais savoir, parce que du coup, tu n'as pas vraiment lu de choses, mais la poétesse de l'anarchie, ou des choses comme ça, est-ce qu'il existe...
C'est une définition d'Enrico Malatesta.
Malatesta. Ah ouais. Je peux essayer de traduire un petit bout.
Est-ce qu'il existe des ouvrages de ces deux personnes, parce que du coup elles ont écrit beaucoup de journaux. Alors des articles. Est-ce qu'il y a des traductions, puisqu'elles peut-être elles éditées en France, est-ce que du coup il y en a des personnes qui ont traduit aussi en France? Et du coup, qu'est-ce que vous conseillez de lire est-ce que en français et troisièmement, ont-elles une analyse particulière? Là, j'ai vu qu'il y avait l'article sur la prostitution, mais je ne sais pas qui l'avait écrit. Est-ce qu'elles ont une analyse particulière sur justement sur des femmes à cette époque? Ou est-ce qu'elles ont un œil, encore une fois, très global voilà, elles ont, ou est-ce qu'elles ont, comme Emma Goldman, vraiment se font voilà, le truc par rapport à aussi les conditions à la fois ouvrières et femmes ou d'autres?
Se vuoi puoi parlare più liberamente e traduco o
meglio? Ah.
Non so cosa meglio. Est-ce que vous préférez qu'il parle en italien, en français et, ou alors il parle en italien et je traduis? Qu'est-ce que vous préférez? Non, c'est peut-être clair.
Ah ouais,
comme vous voulez.
Alors comme vous voulez, j'ai compris.
Non, mais c'est toi comme tu... Ah.
Io ovviamente preferisco parlare l'italiano che piuttosto che il francese. Allora.
Se vuoi, però devi fare frase dopo frase e poi traduco come vuoi.
Sì, sì, sì.
Poi posso anche, se mi dai un pezzettino di poesia, posso tradurla così alla meglio.
Ecco, questo così sarebbe, ecco, sarebbe interessante. Questo si trova. Allora, le questioni che sono state poste. Allora, Veglia si stampava a Parigi, questo l'abbiamo stabilito.
Donc, c'était quindi, imprimé à Paris. Hein?
E quindi était imprimé à Paris. E poi l'altra questione che ha posto lui, qual era?
Non so,
la questione c'était pourquoi la violence.
Ah, la violenza, giusto. La violenza. Allora, sì, il y a une ligne de continuité entre Brescia e les attentats a Mussolini. Et donc, je suis d'accord avec cette analyse. Mais c'est après, il y avait un complot entre une typologie d'antifascisme qui réunissait les anarchistes avec le courant du libéral-socialisme, avec le courant du républicanisme, parce qu'en Italie, il y avait une militance commune entre républicains et anarchistes de longue date, une lutte antidynastique avec une tradition très forte et très populaire. Et donc, on passait au point de vue politique qu'il était nécessaire de tuer les dictateurs pour créer l'insurrection antifasciste. Voilà, c'était la position des anarchistes, mais des républicains et des les différents composants du libéral-socialisme. La historiographie a démontré que les attentats à Mussolini étaient... pour ces attentats, il y avait un complot et des contacts entre ces différents courants de l'antifascisme.
Une seule question que je me pose. J'entends effectivement l'opposition à Mussolini, mais j'entends pas une opposition claire aussi à la royauté, par exemple. Enfin, il y avait quand même un roi. Donc comment, enfin, leur position par rapport à la royauté aussi, est-ce qu'elle était aussi tranchée qu'envers le fascisme? C'est-à-dire envers la royauté, envers toute cette, enfin, on va dire, cette lignée hiérarchisée, cette lignée...
La royauté était retenue responsable du fascisme. La question fondamentale, c'était à ce moment, c'était le fascisme. Parce qu'on voyait les rois comme un instrument du fascisme. Mmh. Oui. Si.
Donc, si
vous... après, pendant le fascisme, naturellement. Mais après, alors, il y a une continuité des idées des tyrannicides qui s'est réalisée à travers l'attentat de Brescia en 1900. Mais après, avec des attentats contre Mussolini.
Mais je peux dire juste un mot à propos de moi. Enfin, moi, les échos que j'avais pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout, mais même un peu avant, c'est que le roi d'Italie était considéré simplement comme quelqu'un sans aucune importance, qui était là, mais en fait, celui qui faisait les choses, c'était Mussolini. La figure du roi, enfin, dans des groupes italiens que je connaissais en Égypte, vraiment, pour le moment, c'était une marionnette, n'est-ce pas? Une belle marionnette, donc ce n'était pas important. Ce qui était important, c'était Mussolini.
Mais est-ce qu'on peut encore parler de républicanisme, proprement dit, dans un régime royal? C'est ça que je me pose comme question. Personnellement, je me pose la question.
Il y a eu des rois républicains en France.
Là, on va rentrer dans une terminologie
tradition très différente. En Italie, la question de la monarchie, c'était fondamental de la naissance de le jeune état du royaume italien. Et donc, il y avait une tradition de lutte antidynastique très forte, très forte. C'était anche la question.
Ouais, parce qu'on est quand même là pour parler des deux femmes anarchistes. Faudrait pas qu'on utilise un tiers du temps de parole pour parler du roi et de Mussolini.
Mais si,
non,
c'est intéressant.
Non. Je suis désolée, on les connaît. Mais on les connaît.
Bah, attends.
Non, mais attends, la visibilisation qu'a travaillé ce professeur est importante. Il faut proposer le temps de parole sur ces femmes. C'est rare.
Psychologie. Ah, vas-y, psychologise-moi,
patologise-moi, c'est très bien.
Bravo
la sororité, hein. C'est beau.
La sororité, putain.
Alors, sur la question
émotionnelle, est-ce que moi
j'allais
poser la même question? J'allais poser la même...
Le mot psychorigine.
J'allais poser la même question pour le caractère émotionnel de la poésie. Moi, j'ai réagi... Tu t'appelles comment, excuse-moi? Ton prénom?
Je m'appelle Florence.
Florence, j'ai réagi.
Non, mais je suis ahurie que dans une instance comme celle-ci, on pathologise les gens. Quoi.
Non, mais moi, je ne pathologise pas parce que j'allais poser la même question que toi.
Émotionnel, ce n'est pas émotive. Émotionnel, c'est-à-dire c'est rationnel et émotionnel. Et il y a une profondeur du sens éthique. Tension militante très forte, je veux dire. Et c'est le point commun que j'ai vu, je pense que est présent même dans Maria Luisa Berneri que dans Virginia D'Andrea. Un langage très fort, méthode de communication très forte.
Bah, il faut dire fort, puissant, intelligent, mais émotionnel, ça me semble être, encore une fois, un stéréotype plaqué sur une écriture, entre guillemets, dite féminine.
Peut-être un appel à tu dis que peut-être une appellation masculine.
Voilà. Est-ce que n'importe quel discours, il y a la vie politique d'une intelligence incarnée, est émotionnel? J'espère bien. Sinon, ça veut dire qu'elle est inhumaine.
Mais j'ai dit émotionnel, pas émotif. C'est clair la différence.
Peut-être en italien, il y a une différence qu'on n'aurait pas en français.
J'espère bien que l'écriture est émotionnelle.
Je pense ce qu'elle veut dire, si je peux me permettre de traduire. Parce que moi, j'ai réagi comme toi. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'aurait pas dit ça de Victor Hugo, même si Victor Hugo a traduit des textes aussi forts, tu vois. Il y aurait peut-être une petite marque là de... C'est une femme, donc elle exprime ses émotions, donc ce que je veux dire. Même si ce n'est pas ce que tu penses intimement, peut-être que...
Peut-être décliné de plusieurs de moyens.
Alors peut-être qu'on pourrait citer, puisque ce serait ça, citer un exemple, si tu trouves tout de suite une poésie comme ça, que un peu littéral, mais pour donner l'idée, on peut essayer, quoi. Mais sinon, pour répondre à ta question sur les traductions, il n'y a pas beaucoup de traductions. Et souvent, quand il s'agit, d'ailleurs, c'est à moi qu'on demande de traduire. Donc, George ne m'a pas encore fait le coup de me demander de traduire ce bouquin. Une fois, j'avais dû décliner parce que tu m'avais demandé de traduire un truc et j'étais dans un moment. Voilà. Donc, mais ce serait une bonne idée, ça, parce qu'on a un atelier de traduction de l'italien à l'université, là, et on est en train de finir un truc. Mais peut-être les poésies de Virgilia D'Andrea, ça peut être une idée. Parce que ça n'avait pas été traduit, effectivement. Il y en a un seul qui a été traduit. Tout à l'heure, il y avait le nom de Gigi Damiani qui apparaît. Là, j'en ai traduit pas mal parce que je m'en suis servi dans des travaux que j'ai faits. Mais c'est un travail énorme, quoi. Et puis, ça permet de donner un peu l'idée, mais bon, c'est... T'as trouvé un extrait ?
Alors, io te la leggo in italiano.
Oui. Lis tout et puis après je regarderai un petit extrait. Ah, non, immagino se la leggi tu con l'accento toscano. Dai, leggi tu con l'accento toscano, dai.
Certo, se per un momento io mi raccolgo e ripenso alle schiere disperse dei profughi respinti da paese a paese, martellati dal dolore, dalle persecuzioni, dalle amarezze dell'esilio, io provo un soffio al cuore e una voce par che mi dica: tutto è finito.
On essaie de traduire? Alors, c'est pas vraiment une poésie, ça? Non è una poesia, è piuttosto un...
Sì, questo è un... Ma la sua scrittura è sempre
d'accordo,
di questo tipo.
D'accordo, allora.
Allora, c'è una scrittura che sembra una poesia sempre,
d'accordo.
Capito?
Allora, certo, si pendant un instant je me recueille et repense aux troupes dispersées de ces exilés repoussés d'un pays à l'autre, frappés par la douleur, par les persécutions, par l'amertume de l'exil, j'éprouve un souffle au cœur, on ne peut pas dire en français parce que ça va être autre chose.
Mais
un pincement, c'est un peu faible, enfin vous voyez quelque chose de fort au cœur, un choc, oui, enfin c'est un souffle là, mais on ne peut pas dire en français parce que enfin, vous avez compris l'idée, et une voix, et il me semble qu'une voix me dit tout est fini. Voilà un exemple.
Et trouve une autre.
C'est une écriture qui embrasse la tragédie du monde et qui l'exprime. C'est une parole vivante, oui.
En plus, la question des exilés à l'époque, c'est vraiment, comme il l'a expliqué, en 1925-26, donc il y a les lois fascistissimes. Et donc d'un coup, les derniers qui ont publié encore des choses en Italie, c'était Malatesta et Damian, et justement, et puis du jour après l'attentat de Lucchetti dont Giorgio a parlé, Malatesta est resté parce qu'il était très âgé, il avait des problèmes de santé. Bon, mais il était en gros en prison chez lui, hein, parce que tous les mouvements qu'il faisait, il était surveillé. Et Damian, c'est un des derniers à être parti en octobre 26, si je ne me trompe pas, par les Alpes. Enfin, il a vraiment essayé de rester jusqu'au bout, mais pour ceux qui sont restés, c'était compliqué. Hein. Galeani aussi, il a fini.
Allora, questo è il motivo dalle premiere numero il line editorial che si appelle Brasier Ardente, c'est-à-dire Brasier Ardent, je le lis en italien. A me parve di vedere quella sera dei veglianti fedeli e sublimi in attesa del giorno, attorno ad un braciere ardente fra le braccia immense della notte più buia, per essere desti alla prima alba domani.
Allora. Il me semble avoir ce soir-là des veilleurs, des
personnes qui font la veillée.
Ouais, oui,
des veilleurs de nuit.
Non, ce serait plutôt veillanti au sens... Comme quand on veille un mort ou quand on veille quelqu'un, là il faudrait que je trouve un terme.
Qui sont réunis autour du brasier.
Voilà, quelqu'un qui font des personnes qui font une veille, quoi, qui vont veiller. Mais on n'a pas un substantif en français pour dire des gens qui veillent, quoi.
Autour de la veille.
Pardon ? Vous avez compris l'idée, voilà. Fidèle et sublime. Qui attendent le jour, autour d'un brasier ardent, entre les bras immenses de la nuit la plus sombre, pour être réveillés dès l'aube le lendemain. Là, c'est tout un tas de symboliques. Hein. Mm-hmm. Parce que je pense qu'on va ça va être la prochaine tâche de l'atelier de traduction de poésie, si je trouve un éditeur que ça intéresse.
Le ragioni della rivista, le raison de la revue. Una rivista agile, fresca, sorridente, come il nostro ideale, groviglio di passione e sensualità, che sprigiona coraggio e trasforma il dolore, tutto il nostro grande dolore, immenso dolore, si è distaccato da noi, si è liberato dalla materia e si è rifugiato sui vertici, si è fuso con l'azzurro, è diventato la montagna di luce che ha rovesciato le tenebre. Diablo, qui dei simbolici.
Vous avez tout compris? Je traduis.
Vous n'avez compris rien.
Dis-moi, c'est où? Dis-moi, c'est où, George?
Alors, là.
Donc, elle décrit, c'est elle-même qui décrit sa revue, c'est ça?
Oui.
Donc, une revue agile, fraîche, souriante, comme notre idéal. Une sorte d'assemblage, quelque chose qui se. Qui fait tout un ensemble de fils qui se mélangent.
C'est superbe.
On a un mot comme ça en français.
Un chevêtrement.
Ah oui, un chevêtrement. Très bien, merci. Vous pouvez faire partie de l'atelier de traduction.
Arvolato.
Arvolato. Enchevêtrement de passion et de sensualité qui libère le courage et transforme la douleur. Tout notre grande douleur, notre immense douleur, s'est détaché de nous. C'est libéré de la matière, c'est réfugié sur les sommets, c'est confondu avec l'azur. Elle est devenue, en français la douleur, la montagne de lumière qui a renversé les ténèbres. Bon, c'est joli.
Encore, mais
on peut dire que c'est lyrique.
Lyrique. Oui.
Ça me rappelle un peu une citation de Rosa Luxembourg qui disait, je crois, si la révolution n'est pas heureuse et gaie, si je ne peux pas danser...
Non, ça c'est la Goldman.
Ah, Goldman, oui.
Ouais,
mais ça fait penser à ça.
Oui, c'est vrai.
Il y a une certaine forme de...
Ben, elles se sont pas connues. Elle a connu Emma Goldman. Giorgio, Virgilia a connu Emma Goldman. Elles se sont rencontrées. Elles se sont rencontrées alors
peut-être aux États-Unis.
Mais non, parce qu'elle était déjà partie. Attends.
Mais attendez, la rencontre de Goldman avec qui?
Avec Virgilia d'Andrea.
Ah.
Je ne sais pas si elles se sont rencontrées personnellement. Parce qu'elle est morte aux États-Unis.
Si, en 1930.
Et à quelle année elle est arrivée aux États-Unis?
1927, elle est en France en 1928.
Mais peut-être qu'elles se sont rencontrées ailleurs avant, je
ne sais pas. Elle a rencontré l'autre.
Emma Goldman a rencontré Marianne. Ah oui.
À propos des sacs Vanzetti.
Ah oui, ça. Mais vas-y, lì.
Ah. Non vi addolorate, non vi scoraggiate per il nostro destino. Ci vogliono morti e sia. Avrebbero potuto impazzire oppure rinnegare, ma essi, scrive Virgilia, questo è l'inciso però, che hanno vissuto faccia a faccia con la morte, si sono sovrumanati. Si sono sublimati e hanno saputo serbare per i viventi le parole più belle e più pure dello spirito che si denuda per la tomba.
Sovrumanate, come faccio a tradurre?
Sovrumanate.
Allora, donc dimmi se où là? Dove l'hai letto? Alors, ne souffrez pas, ne vous laissez pas aller à la douleur, ne vous découragez pas à cause de notre destin. Il faut des morts. Et s'il y a, ainsi soit-il, on peut dire. Ils auraient pu devenir fous ou bien renier leur idéal, mais eux, écrit Virgilia, ceux qui ont vécu face à face avec la mort, ont dépassé leur dimension humaine et se sont sublimés. Et ils ont su garder pour les vivants les mots les plus beaux et les plus purs de l'esprit qui se dénude, qui se met à nu avant d'entrer dans la tombe. Bon, donc c'est...
Applause.
Merci. Bon, on fera mieux pour l'atelier de traduction, hein, je vous promets. Avec le temps de la réflexion.
Mais c'est dur, c'est fort.
Ah oui, c'est fort, oui, malgré la traduction un peu scorpiante, c'est fort.
Il y a rien qui parle un peu plus de Maria Lucia Vernelli. C'est une figure assez fascinante, non, à l'époque de Londres, avec la bande de Bernard Richard, tout ça. Et il y a rien qui parle un peu plus parce que ça m'intéresse beaucoup, là, justement, ces débats sur le pacifisme. Par un peu, les itinéraires qu'elle a fait, c'est assez fascinant, je trouve, la figure.
Qu'est-ce que tu fais demain à 14h30? Parce que demain, 14h30, George nous fait une intervention toute dédiée. Et c'est pas pour qui il va te répondre, hein, mais si il va tout dédier à Maria-Louisa Berner et demain à 14h30.
Je sais pas, c'est parce qu'il n'habite pas à Montpellier, mais peut-être.
Bon. Écoute, si tu peux, tu seras le bienvenu.
Ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai lu les bouquins sur les utopies, l'histoire des utopies. Tu vois, c'est très intéressant.
C'est très intéressant, mais j'ai. Ravisé, on peut dire ravisé. Non. J'ai vu dans les positions de Maria Luisa Berneri une évolution. Après la sconfitta,
la défaite
de la révolution espagnole, le reconnaissement de la violence politique, et on prend une position contre la guerre, une position anti-belliciste, mais c'est une position même contre la guerre antifasciste. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord pour bombarder les villes
allemandes.
Parce qu'on dit qu'il y a une contraposition entre. D'un côté, le pays et le gouvernement et le peuple fasciste, et de l'autre côté, le pays antifasciste, mais il y a le gouvernement contre les populations. Et donc, il est contraire à cet bombardement. Et on ravise, et on voit dans ces positions une anticipation du mouvement pacifiste de l'année 60, parce que autour du petit groupe, de Londres, et il y a des intellectuels, après je vous dis les noms, qui prennent position contre le mythe, après sera le mythe de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une guerre juste, une guerre antifasciste. Et donc, c'est très difficile. Si c'est possible, je... Et il y a une... Après seulement 20 ans, après les années 40, dans les années 60, dans les pays anglophones, il y a, dans la New Left, dans les positions pacifistes de la Beat Generation, il y a une position... pacifiste qui est directement collégué avec la position de ces petits groupes des intellectuels et des anarchistes exiliés, d'Espagnols aussi, hein, à Londres. Allora, vediamo se... Allora. La position contraire à la guerre qui caractérise les groupes londoniens, bien qu'elle corresponde à celle exprimée par d'autres milliers importants du pacifisme britannique de l'époque, reste un épisode minoritaire. Il suffit de dire que, comme dans les décennies suivantes, la vulgate de la guerre juste menée contre le nazifascisme est ancrée dans l'imaginaire collectif et institutionnel de manière indélébile. à l'Est comme à l'Ouest. En Grande-Bretagne, comme ailleurs, la mémoire du conflit de 1939 à 1945 est devenue un élément fondamental et identitaire de la nation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, celui qui n'était pas en faveur de l'effort de guerre était considéré comme un partisan de Hitler. La controverse et le débat qui animent les milieux intellectuels antifascistes et qui impliquent de personnages comme George Orwell sont très durs. Et puis ici, il y a à son ami écrivain Orwell qui, d'après les microphones de la BBC et dans les pages de la Partisan Review, adresse aux pacifistes l'accusation infâme d'être objectivement pro-nazi. Et Maria Luisa répond, je le veux lire, ecco voilà, ma io volevo trovare i nomi, ora non li trovo. Gli intellettuali. Ecco, ci sono George Woodcock, Herbert Read, Alec Comfort, Colin Ward e altri, insieme a Vernon Richards, che formano questo gruppo antibellicisti. Quello glielo faccio mandare.
Allora, peut-être on pourrait fare ancora una question? Non, alors s'il n'y a pas de questions, ben Ronald va conclure.
Oui, ben écoutez, je veux conclure avec quelque chose qui me semble très important dans ce que Virgile et d'Andrea a dit et fait et écrit. Quand elle parle justement de ces gens qui veillent autour du feu en attendant le jour qui se lève, c'est évidemment l'allusion au fascisme et à la fin du fascisme. Et je crois que c'est quand même une leçon de courage qu'elle nous donne. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en ce moment dans une démocratie autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, et que, par conséquent, nous ne sommes encore qu'à ses débuts. Et que nous devons nous armer et nous préparer pour des luttes qui seront peut-être beaucoup plus dramatiques encore. Donc je crois que ces paroles sont toujours très actuelles. Merci.
Merci beaucoup. Hein. Et donc demain, si jamais vous avez envie de continuer le débat, il y a toute la journée qui se passe à l'Université Paul Valéry, le matin à Cite-Saint-Charles et l'après-midi, route de Mende, et vous avez un programme sur la porte. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous et excusez-moi pour mon français. Hein.
Je parle français comme une vache espagnole.
C'est bien, c'est bien.
Est-ce que je voulais dire